Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir pour 2 heures d'infos en votre compagnie. À la une, ce match, NUP ensemble, la gauche unie face aux troupes d'Emmanuel Macron. C'est parti, 5 jours de campagne seulement avant ce week-end, avant le second tour des élections législatives. Les premiers députés insoumis élus dès hier se sont mis en scène à l'Assemblée cet après-midi et pendant ce temps-là, flottement dans la majorité sortante avec 50 nuances de Front Républicain autour de cette question, faut-il voter NUP face à l'extrême droite? On la posera cette question à Jean-Michel Blanquer, ex-ministre éliminé hier au premier tour. Il sera notre invité de 18h15. Les autres titres de l'actu à suivre dans votre journal, Antoine Cavallero, bonsoir.
Bonsoir, incendie impressionnant au Gros-du-Roi, un camping évacué, RTL est sur place. Mais qui est vraiment Dino Scala, l'homme soupçonné d'être le violeur de la Sambre? Son épouse parle d'un mari modèle, d'autres proches sont beaucoup plus critiques, vous l'entendrez. Et puis le foot, France-Croatie ce soir, dernière chance pour les Bleus de remporter un match avant les vacances d'été.
À 18h30, les dessous de l'actu, les dessous du crash du parachuté Éric Zemmour dans le Var, quid de son avenir politique. 18h40, on va défaire le monde, défaire la chaleur aussi avec Cyprien Signé-Labande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le menu,
des forêts moins denses, moins vertes, des feuilles plus petites ce soir. À la veille d'un nouveau pic de chaleur, vous allez découvrir comment nos paysages ont déjà changé avec le dérèglement climatique. Au menu également, les antivax plus forts sur les réseaux sociaux que dans les urnes et une rencontre avec le pédiatre star de TikTok.
À 19h, nouvelle invitée dans RTL Soir, le témoignage poignant de Miss Ukraine. Elle est en France pour récolter des fonds en faveur des orphelins de la guerre. 19h15, on va refaire le monde et les législatives avec Éric Brunet, les polémistes. Et puis le temps, la chaleur tout au long de l'émission. Bonsoir Louis Baudin.
Bonsoir Julien.
La tendance pour demain?
Ah bah c'est du soleil, de la chaleur qui va encore intensifié et quelques orages en montagne.
À tout à l'heure.
RTL Soir. Le journal Julien Cellier, Antoine Cavallero.
Et direction donc le Gros-du-Roi dans le Gard. Un immense panache de fumée grise cet après-midi sur les rives de la Méditerranée. Incendie au camping de l'Espiguette. Il a été évacué. Étienne Baudu, vous êtes sur place pour RTL. A priori, l'incendie est maîtrisé.
Oui, et les sapeurs-pompiers, hein, qui ont été jusqu'à une centaine sur le terrain cet après-midi, sont en fait en train de noyer les derniers foyers et surtout refroidir les tôles calcinées de la cinquantaine de bungalows qui sont partis en flammes en milieu d'après-midi. Le feu s'est déclaré un peu après 13h. Un immense panache, vous le disiez, de fumée noire était visible aux alentours. Donc en tout, une cinquantaine de vacanciers ont été évacués dans la zone concernée par les flammes et 300 autres quand même ont été évacués par précaution. Parmi eux, Bernadette, elle a eu un peu peur.
C'est impressionnant quand on a vu cette fumée noire, quoi. Ça fait peur. J'étais en train de manger de ma terrasse, j'ai vu les flammes, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est de là, j'ai dit, mon Dieu, on va être obligé de partir de là, il faut vite. Et puis après, voilà, ça. On a attendu un peu et c'est là qu'on a tapé à la porte qu'il fallait évacuer, quoi, vers la piscine. Et vite, on a pris 2-3 bricoles, allez, hop, et on est parti, une bouteille d'eau, et puis voilà.
Et vous espérez revenir ce soir dans votre mobilhome, vous?
Oui, quand même, hein, j'espère bien.
Voilà, alors, les 50 personnes qui étaient installées dans les bungalows incendiés vont être accueillies, eux, dans un camping voisin. Les autres, comme Bernadette, devraient retrouver leur bungalow. Et bien entendu, les sapeurs-pompiers vont rester sur place pour surveiller qu'il n'y ait pas de reprise dans ce camping le plus grand d'Europe, plus de 2000 emplacements.
Merci beaucoup, Étienne Baudu. Incendie donc au Gros-du-Roi, à quelques heures d'une nouvelle vague de chaleur. Louis Baudin, je me retourne vers vous. On va frôler les 40 degrés par endroit cette fois, cette semaine, c'est
oui,
ça?
Oui, exactement. Alors, pas forcément en bord de mer, hein, puisqu'on a toujours l'effet maritime qui limite un peu cette hausse, mais c'est vrai que dans les terres, je pense à la Provence, Basse-Vallée du Rhône ou encore autour de la vallée de la Garonne, on frôlera très certainement les 40 degrés.
On vous retrouve juste à la fin du journal.
RTL, législative 2022.
22h après le verdict des urnes, c'est parti pour 5 jours de campagne express avec ce match dans une immense majorité de circonscriptions. La NUP face à la coalition d'Emmanuel Macron, l'alliance de la gauche qui revendique la première manche avec déjà 4 députés élus dès le premier tour. Et William Galibert, ils n'ont pas traîné, hein. Ils s'affichaient déjà à l'Assemblée cet après-midi.
Oui, rentrée des classes avant les petits copains pour Sofia Chikirou, Daniel Obono, Sarah Legrain et Alexis Corbière. Ils s'embrassent, ils rigolent, bras dessus, bras dessous. On se serait cru à Cannes, mais les marches qu'ils ont montées étaient bien celles de l'Assemblée nationale.
On va préparer et on va dire aux copains comment c'est là, l'Assemblée, si c'est toujours bien. On va peut-être choisir les bureaux, j'en sais rien.
On leur a donné le petit cartable en cuir, le règlement intérieur, le badge et l'écharpe tricolore. Première fourniture et premières attaques. Vous allez y revenir dans le détail, Antoine, mais la NUP accuse le ministère de l'Intérieur d'avoir trafiqué les chiffres pour placer les macronistes en tête au plan national.
Il y a une tentative de tripatouillage pour essayer de faire quoi ? Ils essayent de semer le doute dans l'esprit des gens pour leur dire « Mélenchon ne peut pas gagner, la NUP ne peut pas gagner ». Mais si on peut gagner, vous voyez bien à leur panique que l'on peut gagner.
Darmanin voilà. Est aussi bon pour organiser des élections qu'une finale de la Champions League.
Gérald Darmanin, aussi bon pour organiser des élections qu'une finale de Ligue des Champions, tacle Alexis Corbière. Oui, c'est un nouveau mandat, mais il commence avec une bonne vieille polémique.
Merci William Galibert depuis l'Assemblée pour RTL. Et effectivement, il y a polémique sur les résultats du premier tour. Qui a gagné ? Ensemble et NUP revendiquent chacun la victoire, avancent des chiffres différents pour y voir plus clair. On pose trois questions à la brigade d'RTL.
Bonsoir Marie-Bénédicte Thaler.
Bonsoir.
Alors, le ministère de l'Intérieur assure que la majorité sortante est arrivée en tête. On l'entend, la NUP crie au tripatouillage. Qui a raison ?
Écoutez, si on compte tous les candidats que la NUP revendique, ça fait effectivement autour de 20 000 voix d'avance pour elle. Alors pourquoi ce débat ? Le ministère de l'Intérieur explique. 1. Les candidats de Corse et d'Outre-mer ne figuraient pas sur la liste transmise par la NUP le 7 juin. Du coup, il leur a attribué la nuance d'hiver gauche. 2. Des candidats bel et bien sur la liste, Hervé Solignac en Ardèche, Dominique Potier en Meurthe-et-Moselle, Joël Aviragnet en Haute-Garonne, ont ensuite décidé de faire campagne sans l'étiquette NUP. Du coup, ils ont été classés d'hiver gauche eux aussi.
Mais Marie-Bénédicte, est-ce que c'est intentionnel, comme le dit la NUP ? Est-ce que le ministère a eu l'intention de brouiller les cartes ?
On peut se poser la question. Jean-Hugues Ratenon, député sortant de la Réunion non étiqueté NUP, donc, siégeait pourtant au sein du groupe LFI dans la précédente législature. La place Beauvau ne semble pas s'en souvenir. Quant à Solignac, Potier et Aviragnet, trois sortants socialistes, c'est vrai qu'ils n'ont pas mis en avant l'étiquette NUP dans leur campagne, mais cette fois, le ministère est bien au courant.
Mais au fond, est-ce que savoir qui est arrivé en tête, ça a vraiment une incidence sur le résultat final ?
Avec un écart aussi faible, oui. Une campagne, c'est une grosse part de psychologie. S'afficher en tête, surtout pour l'opposition, c'est espérer créer une dynamique et mobiliser une partie des abstentionnistes, ces réserves de voix dont la NUP aurait bien besoin pour l'emporter dimanche prochain.
Merci Marie-Bénédicte Thaler du service politique de RTL, c'est plus clair ainsi. En revanche, ce qui est toujours flou ce soir, ce sont les consignes de vote du camp présidentiel en cas de duel RN-NUP au second tour. On en compte une soixantaine. Ce matin, Olivia Grégoire l'assure sur notre antenne, pas une voix pour le Rassemblement National. Sauf que depuis, certaines voix macronistes ne veulent pas suivre. Exemple à Hénin-Beaumont ou entre Marine Le Pen et l'écologiste Marine Tondelier, la candidate LREM sortante appelle à voter blanc. Décryptage dans le journal de 19h.
Allez, dans un instant, l'affaire du violeur de la Sambre. Qui est vraiment Dino Scala ? Père de famille modèle, prédateur sexuel, deux versions s'opposent au procès. À tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier, RTL Soir.
18h09 et la suite de votre journal dans RTL Soir. Au procès de Dino Scala, l'heure est à l'examen de sa personnalité.
L'homme jugé pour viol et agression sexuelle sur 56 victimes à la cour d'assises de Douai, où vous êtes, Frank Hanson. Deux portraits complètement opposés. D'un côté, le bon père de famille, brossé par sa femme. De l'autre, des proches beaucoup plus critiques sur son côté pervers.
Oui, tassé dans son box, mâchoire serrée, Dino Scala reste tête baissée quand sa femme Sandrine arrive à la barre. Elle ne réalise pas encore ce dont il est accusé aujourd'hui. Elle n'a rien vu de ses pulsions, de ses penchants de prédateur sexuel. C'était un bon père, travailleur, toujours prêt à aider les autres, explique cette femme dépressive qui a dû quitter la région. L'ancien ouvrier mécano qui chassait au petit matin violait des mineurs de 13 ans alors que son épouse était enceinte, rappelle l'avocat général. Et ses ex-belles-sœurs en dressent un portrait beaucoup moins élogieux. C'est un pervers manipulateur, assure l'une des deux, persuadée qu'il l'avait droguée pour abuser d'elle. Scala se lève, toujours à l'aise. Non, il n'a jamais drogué personne, mais il reconnaît la tentative d'agression sexuelle. C'était le début d'une longue série, souligne le président, face aux victimes qui font bloc dans la salle. on peut dire ça comme ça, lâche l'accusé. Depuis longtemps, je suis habité par quelque chose vis-à-vis des femmes, des pulsions que je n'arrive pas à gérer.
Franck Hanson dans le Nord pour RTL. À Toulouse, Cédric Jubilard lui reste en prison. Sa détention rallongée de 6 mois. La décision est tombée cet après-midi. Les avocats du peintre plaquiste vont faire appel. Ça fait 1 an qu'il est derrière les barreaux soupçonné du meurtre de sa femme Delphine.
Nous sommes à 3 semaines des vacances d'été et une colère monte chez les jeunes.
Depuis 2 ans, les 12-25 ans profitaient d'un pass TER pour 29 euros par mois. Des voyages illimité à travers toute la France. 84 000 utilisateurs l'an dernier tout de même. Eh bien, c'est fini. Le précieux sésame n'est pas reconduit cet été. Arnaud Touche, une pétition recueille déjà 15 000 signatures.
Oui, dépité, presque dégoûté, Alexis, 18 ans, va devoir changer ses plans.
Je vais partir cet été grâce à ce poste, mais malheureusement, c'est terminé, on ne pourra pas partir.
Et c'est lui qui a lancé cette pétition en ligne.
Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent. Par exemple, j'ai vu hier soir une femme qui disait « Je ne vais pas pouvoir voir ma grand-mère cet été parce que il n'y a pas ce pass, c'est inadmissible, ceci, cela. On est nombreux à ne pas pouvoir faire des choses ou à carrément tout annuler à cause de la suppression du pass.
Alors ce sont les régions de France qui gèrent les TER et qui ont décidé de mettre fin à ce pass estival très avantageux. Depuis 2 ans, le but était de faire revenir les jeunes dans les trains et notamment les TER. Mission réussie, certes, mais l'État n'a pas voulu compenser les dépenses du pass et les pertes liées au Covid. Du coup, les régions ont décidé de le stopper cette année. Au grand dam d'Amaury, 21 ans.
Je pense que je partirais moins sur un coup de tête, partirais qu'à un endroit au lieu de partir à 3 ou 4 endroits comme j'ai pu faire l'an dernier, malheureusement.
Alors la SNCF indique que des promotions subsistent pour les jeunes qui veulent prendre le TER cet été, mais qu'elles sont disponibles région par région et non plus dans le cadre d'un pass national qui permettait donc de voyager avec tous les TER en France.
Arnaud Touche, spécialiste transport chez RTL, merci à vous. Les billets de train plus chers donc pour les jeunes, à l'heure où, ça c'est pour tout le monde, les carburants poursuivent leur folle ascension malgré la ristourne du gouvernement, le gazole repasse au-dessus des 2 euros. Le foot, dernier match des Bleus avant les vacances. France-Croatie ce soir, dernière chance pour marquer des points car pour l'instant, on va pas se mentir, la campagne en Ligue des Nations n'est pas des plus reluisantes.
2 nuls et 1 défaite jusqu'ici et plusieurs motifs d'inquiétude. Bonsoir Philippe Sanfourche.
Bonsoir.
Et le cas Griezmann fait partie des plus préoccupants.
Ah oui, l'habituel chef d'orchestre des Bleus à la dérive depuis le début de saison, la pire de sa carrière, que ce soit en club ou en sélection. Tenez-vous bien, Griezmann n'a plus marqué le moindre but depuis le 6 janvier dernier. Probable remplaçant ce soir, il traverse encore ce rassemblement comme un fantôme. Lui, le protégé habituel de Didier Deschamps, il avoue avoir participé aux 63 derniers matchs des Bleus. Le sélectionneur dresse un constat objectivement lucide.
C'est pas sa meilleure période. Il a connu sa première blessure en début d'année où il a eu une rechute. Autrement, il a enchaîné des saisons systématiques. Je dis pas qu'il est usé. Après, il y a des situations collectives et personnelles qui peuvent amener aussi à être... Mais je connais ses qualités et son mental aussi.
L'homme, Griezmann, impacté aussi par la récente mise en examen de son ancien conseiller sportif, Eric Olatz, placé depuis le 12 mai dernier en détention provisoire pour atteinte sexuelle sur mineur. C'est lui qui avait découvert et hébergé l'attaquant des Bleus, alors âgé de 15 ans.
France-Croatie à suivre dans RTL Foot à partir de 20h40 avec vous, Philippe Sanfourche, aux commentaires, notamment.
Notamment, entre
avec
autres,
Nicolas Georgerot,
oui, avec tout le service des sports mobilisé, le brillant Brestois Nicolas Georgerot. Merci beaucoup Philippe, à tout à l'heure depuis le Stade de France. Merci Antoine, à tout à l'heure. Le temps maintenant, il va faire chaud ce soir sur la pelouse du Stade de France et ce sera encore plus chaud demain un petit peu partout sur le pays, Louis Bonin.
Oui c'est vrai, on aura 21-22 degrés au début du match. Il a fait un peu moins chaud que prévu, donc c'est pas mal, ouais, un peu moins chaud que prévu dans le Nord.
Je vais peut-être jouer ce soir du coup.
Mais ça, voilà, peut-être, mais demain ça va grimper encore. C'est vrai, tout ça avec un soleil omniprésent. On se verra en fin d'après-midi, un risque orageux. Alors sur les Pyrénées, puis ça pourra déborder en plaine au sud de la Garonne ou encore du côté du Languedoc. Donc des orages peut-être violents en cours de soirée. Même chose sur les Alpes ailleurs. Donc grand soleil toute la journée. Le tout avec des températures encore en hausse. Le matin, 9 à 13 degrés dans la moitié nord. Déjà 13 à 18 au moins dans les régions du sud. Et puis l'après-midi, 20 à 24 degrés près de la Manche. Donc ça monte nettement par rapport à aujourd'hui. 26 à 30 degrés dans les autres régions de la moitié nord, donc ça y est, on va de nouveau là aussi se rapprocher des 30 degrés et 30 à 35 degrés dans la moitié sud.
Merci Louis. Petite pause et ensuite notre invité sur RTL sera Jean-Michel Blanquer, l'ex-ministre, l'une des personnalités politiques éliminées hier au premier tour des élections législatives. Dans sa circonscription, la NUP va affronter le RN avec en creux cette question, quid du Front Républicain. Tout de suite sur RTL.
RTL Soir avec Julien Cellier. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir.
RTL Soir avec vous, 18h19, la course contre la montre est lancée. 5 jours de campagne avant ce week-end, avant le second tour des élections législatives, avec ce duel ensemble NUP, les troupes d'Emmanuel Macron face à l'alliance de la gauche, duel qui se dessine dans une grande majorité de circonscriptions. Notre invité ce soir est Jean-Michel Blanquer, bonsoir.
Bonsoir.
Récent ministre de l'Éducation nationale, vous étiez candidat dans la 4e circonscription du Loiret, vous avez été éliminé hier soir, 3e avec presque 19%, quelques voix derrière Bruno Nautin de la NUP, Thomas Ménager du RN en tête largement avec plus de 31% des voix. Avec une nuit et une journée de recul, comment vous vivez cette élimination? Est-ce que c'est un échec, cette aventure des législatives?
C'est en tout cas un échec relatif, au sens où mon objectif c'était d'éviter que cette circonscription se trouve à avoir à choisir entre deux radicalités au second tour. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de se produire. Donc comme l'écart est très faible avec mon le concurrent communiste qui est devant moi et qui a eu beaucoup d'irrégularités dans sa manière de mener la campagne, l'affaire n'est pas terminée, si je puis dire.
Mais... Alors l'affaire n'est pas terminée parce que vous voulez déposer un recours. Expliquez-nous pourquoi.
Ben, tout simplement parce qu'il y a des règles du jeu électoral qui ont été violées. Alors il y a les règles politiques, et puis il y a les règles juridiques. Les règles politiques, ça fait longtemps que l'extrême gauche les a violées, au sens où la violence verbale est extrême, bon ça c'est une chose, mais surtout sur le plan juridique, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Par exemple, imiter le tract d'un adversaire en mettant des choses fausses dedans.
Quand votre sosie, qu'on a beaucoup vu, ce militant écolo, vient avec des tracts parodiques, pour vous, c'est susceptible d'être attaqué.
L'ensemble de cet événement, par exemple, peut se décomposer en violation de règles prévues par, tout simplement par le code électoral. Ils ont fait une cagnotte Litchi pour financer ça, par exemple. Vous n'avez pas le droit de faire ça pour un compte de campagne. Or, il était appelé à venir par mon concurrent. Et alors, sans parler de l'état d'esprit que tout ceci révèle, sur le plan strictement juridique, c'était illégal. De la même façon, le tract. Mais je ne veux pas m'étendre là-dessus, on le fera devant le Conseil constitutionnel, et puis touché
hier soir, parce que vous avez été chahuté pendant cette campagne, attaqué sur votre bilan en tant que ministre, aspergé de chantilly il y a quelques jours. Vous avez dit ce matin, je suis devenu l'ennemi public numéro un. C'est ce que vous avez ressenti?
De cette extrême gauche-là, pas plus loin que cela. La phrase complète, c'est je suis devenu leur ennemi public numéro un, parce que, au fond, j'ai eu depuis un certain temps, et a fortiori encore plus aujourd'hui, une parole, je crois, de vérité sur ce qu'est cette extrême gauche en France aujourd'hui. Elle est devenue d'une violence extrême, violence verbale qui finit toujours par de la violence physique, c'est ce qui m'est arrivé et qui quand même doit alerter. J'étais en train d'exercer une liberté publique fondamentale. Quand vous distribuez des tracts, c'est quelque chose de sacré, comme dirait leur chef. Vous êtes interrompu violemment. Quand vous faites ça, c'est très grave du point de vue de l'idée qu'on peut se faire de la République et des libertés. Le candidat en question n'a jamais condamné cette agression. Donc vous avez là... Vous savez, je pourrais tout simplement plier les Gaules, comme on dit, et dire, bon, après tout, tout que ça se passe en moi, ce serait beaucoup plus confortable. Ce que je veux, c'est alerter sur cette extrême gauche qui a des méthodes qui ont dépassé les bornes sur le plan des règles de la République, qui en plus, sur le plan de son programme politique, est ultra dangereuse, mènerait, si elle avait un tant soit peu le pouvoir, à l'hyperinflation, au chômage, désigne toujours des coupables quand les choses ne vont pas comme elle veut, et crée une espèce de climat politique que j'ai vécu personnellement, que j'ai vécu aussi en tant que ministre de l'Éducation nationale. Vous savez, le représentant des parents d'élèves qu'on a entendu pendant 5 ans sur toutes les antennes,
Rodrigo Arenas,
il est candidat LFI.
Dans une circonscription de Paris.
Voilà, ben, ça veut dire que pendant 5 ans, on a dit sur toutes les ondes, et voici ce que pensent les parents d'élèves. En réalité, c'était un mélenchoniste qui faisait de la politique. Alors, même chose pour un représentant lycéen. Donc si vous voulez, à un moment donné, soit ces choses-là sont dites, et c'est ce que je fais, soit on est dans le faux semblant et on ne dit pas que cette radicalité-là, autant que celle d'en face, elle est extrêmement dangereuse pour la France.
Là, vous mettez dos à dos, en quelque sorte, la NUP et le RN. Il y aura dans votre circonscription un duel NUP-RN dimanche. Ce matin, sur RTL, la porte-parole du gouvernement a donné une consigne claire. Dans ces cas-là, pas une voix pour l'extrême droite. Mais depuis ce matin, on a la sensation qu'il y a toujours du flottement dans la majorité sortante. Vous, par exemple, on vous entend, on a l'impression que vous n'allez pas la suivre, cette consigne, pas une voix pour l'extrême droite.
Je n'ai pas du tout dit qu'il fallait voter pour le candidat d'extrême droite, qui, par ailleurs, sera...
Vous appelez à un nini ?
j'appelle au cas par cas. C'est-à-dire que moi, je regarde comment sont les gens et ce qu'ils proposent. Est-ce qu'on respecte les principes de la République ? Est-ce que l'on aime la France ? Est-ce qu'on est respectueux des adversaires ? Ce sont des choses qu'on doit regarder aujourd'hui si on veut vivre dans une démocratie saine. Et vous avez une extrême gauche qui se croit tout permis parce qu'elle croit qu'elle incarne le progrès. Et moi, mon propos principal, il est vis-à-vis de la jeunesse, parce que malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui votent pour Mélenchon, parfois par idéal, parce qu'ils pensent que ça représente le progrès. Ils ne voient pas que, comme souvent, cette voie-là, en réalité, est le cheval de Troie d'un extrémisme qui mène à autre chose que la démocratie.
Vous pouvez comprendre que les auditeurs qui nous écoutent, que les électeurs de votre camp soient un peu perdus ce soir, parce que, par exemple, votre successeur à l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, lui, il appelle à faire barrage très clairement au RN. C'est le cas de beaucoup de ministres. Mais finalement, de nombreuses personnalités comme vous, politiques de la coalition Ensemble, mettent ce soir sur le même plan la NUP et le RN. On a besoin de clarté, dit la CFDT ce soir.
La clarté, c'est très simple. Est-ce qu'on est dans l'arc républicain en France ou est-ce qu'on n'y est pas ? Et donc, il y a des critères pour regarder ça. Quand votre vision politique, c'est le communautarisme, quand vous cherchez le vote communautaire...
Pour vous, Jean-Luc Mélenchon, il ne fait pas partie de l'arc républicain ?
Non, bien sûr que non. Il s'en est depuis longtemps. Quand vous voyez que Mme Obono reçoit M. Corbyn, dont les propos et la pensée antisémite sont malheureusement totalement avérés...
Ex-leader travailliste.
Et qu'on voit cette espèce de complicité avec ce qu'il y a de plus nauséeux. Quelle différence ça fait avec les secteurs d'extrême droite les plus rances, les plus abjectes. Mais c'est de l'antisémitisme qui existe de ce côté-là.
On se souvient,
donc,
Jean-Michel Blanquer.
Il y a une dérive d'extrême gauche en France. Et quand en plus on voit qu'une partie de la gauche s'est laissée séduire par cela, pour comme on vend un plat de lentilles, et ben, quand on vend contre un plat de lentilles ses principes, eh bien, il faut alerter. C'est ce que je fais.
Mais il y a 7 semaines, pendant l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, avant d'affronter Marine Le Pen, Emmanuel Macron lui-même soulignait qu'il y avait des points de convergence avec les insoumis, des valeurs communes, même disait le président de l'Assemblée à l'époque, Richard Ferrand. Vous ne partagez pas ce point de vue ? Il n'y a pas de valeurs communes ?
Ce que je pense, c'est qu'il y a des thèmes qui peuvent unir. Et d'ailleurs, mon propos est à la fois calme et équilibré. Je ne parle pas de valeurs communes, mais je parle de principes qui peuvent unir les Français. Il ne faut pas passer par des logiques partisanes, il faut passer par ce que les Français pensent. Et là, par exemple, si on parle de la jeunesse a bien raison d'être préoccupée par l'écologie. Simplement, M. Mélenchon est écologiste comme je suis martien, si vous voulez. Ce n'est pas ça, c'est pas ni son histoire, ni sa volonté. En revanche, oui, le président de la République a raison d'insister sur l'écologie, sur le social. Vous savez, moi-même, comme ministre de l'Éducation nationale, j'ai une politique extrêmement sociale. Je suis un républicain social. La mesure de dédoublement des classes en REP+, c'est une mesure profondément sociale qui va à la racine des inégalités. Est-ce que, donc, si vous voulez, quand aujourd'hui vous êtes un républicain social, centriste, humaniste, universaliste, vous êtes décrit comme un réactionnaire par cette extrême gauche-là qui essaye de complètement brouiller la grille de lecture politique de la démocratie.
Juste pour revenir sur l'élimination d'hier, est-ce qu'avec un tout petit peu de recul maintenant, vous regrettez cette candidature dans le Loiret ? On sait que c'était une circonscription qui était difficile, que vous n'aviez pas forcément, comme certains de vos opposants, un ancrage local. On a aussi la sensation que la majorité aurait peut-être pu vous envoyer dans un lieu plus simple à gagner.
Mais je pense que dans la vie, il ne faut pas choisir la facilité. Et ce que je fais devant vous ce soir, ce n'est pas non plus la facilité. Je pense qu'il faut avoir des principes et qu'il faut s'y tenir. Et qu'en l'occurrence, j'étais tout à fait heureux d'être là parce que, d'abord, j'aime ce territoire. C'est l'occasion pour moi de dire à quel point Montargis, ce qu'on appelle le Gâtinais-Montargois, c'est-à-dire la ruralité autour, est magnifique. Pas très loin de Paris, vous avez un endroit qui a énormément d'atouts. C'est ce que j'ai fait valoir dans ma campagne. Je l'ai fait avec un programme constructif. J'ai proposé un campus universitaire là-bas qui pourrait créer de la richesse, créer de l'emploi, créer tout simplement du tonus dans ce territoire. Et donc aller vers des choses constructives. J'ai eu face à moi une bonne partie des adversaires qui ne pensaient qu'à être dans la colère, à appuyer sur les difficultés qui sont bien réelles, par exemple le désert médical. Donc oui, c'était un territoire de conquête sur le plan politique, à plus d'un titre. Donc par définition, c'était un gros risque. Et donc il faut accepter de ne pas gagner dans ces cas-là.
Pour
ceci dit, comme je vous le disais, c'est pas complètement fini. Mais le sujet, c'est vraiment pas ma personne, pas du tout.
Le sujet, c'est vraiment la France. Ce n'est pas votre personne, mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant, Jean-Michel Blanquer ? Est-ce que vous allez continuer la politique ou peut-être, je ne sais pas, retrouver une activité de professeur. Vous avez été maître de conférence à une époque.
Je suis professeur des universités. C'est mon métier que j'ai exercé bien, bien plus que celui de responsable politique. Donc je peux tout à fait le reprendre. Mmh. C'est probablement ce qui va arriver d'ailleurs. Et donc c'est rien de désagréable tout cela. Le problème n'est donc pas là, si vous voulez. Vous savez, les gens pensent qu'on veut être ministre ou député parce qu'on veut gagner des choses sur le plan personnel. C'est pas tout à fait juste. Il y a beaucoup de sacrifices à faire pour exercer la responsabilité politique. Donc ne plus l'avoir n'est pas un problème personnel, au contraire. En revanche, j'ai peur pour mon pays de certaines choses, notamment des radicalités, et donc c'est mon devoir, me semble-t-il, de faire ce que je fais. Sans doute, je ne fais pas les choses parfaitement, puisque j'ai perdu, mais au moins, je suis en droite ligne avec mes principes.
Merci Jean-Michel Blanquer d'avoir été ce soir notre invité sur RTL. Vous, le candidat Renaissance, éliminé donc hier soir dans le Loiret, mais on note ce soir que vous comptez déposer un recours. Merci d'avoir été notre invité. Dans un instant, dans RTL Soir, législatif toujours avec les dessous de l'actu, les dessous de la défaite dans le Var hier d'Éric Zemmour. Quid de son avenir politique? Là aussi, on va s'interroger. Puis laissez-vous tenter dernière avec de la musique pour les grands et les petits. À tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier.
RTL Soir à vos côtés, 18h32 minutes.
RTL Soir avec Julien Sellier.
Et Antoine Cavallero vous rappelle maintenant les trois titres de l'actu à retenir ce soir.
Une marche blanche pour Emma Clessé. Elle s'est élancée il y a une demi-heure depuis le club d'équitation de l'adolescente tuée la semaine dernière en Saône-et-Loire. Les législatives, le duel du second tour, les troupes d'Emmanuel Macron face à l'alliance de gauche NUP, les deux camps revendiquent la victoire, bataille de chiffres. Et puis le foot, France-Croatie ce soir à Saint-Denis, 20h45, les Bleus condamnés à la victoire pour rester dans la course en Ligue des Nations. Et avant de partir en vacances, c'est toujours mieux de gagner.
C'est toujours mieux, effectivement. Merci Antoine. Le temps, la chaleur pour demain, Louis.
Exactement, hein, c'est simple. Du grand soleil pour tout le monde. Quelques orages le soir près des Pyrénées pouvant déborder en plaine. Et puis, même chose sur les Alpes. Tout cela avec de la chaleur, vous l'avez dit l'après-midi. 20 à 24 degrés près de la Manche, ça grimpe. 26 à 30 degrés dans les autres régions de la moitié nord et 30 à 35 dans la moitié sud.
Merci Louis.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et les dessous maintenant du crash d'un parachuté. Quel avenir politique pour Éric Zemmour, éliminé hier dès le premier tour des élections législatives dans le Var? Bonsoir Thomas Després.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Vous avez suivi cette fin d'aventure à Cogolin hier soir avec un Éric Zemmour abattu qui a annulé toutes ses interviews dès l'annonce des résultats.
Exactement. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois même qu'on suit Éric Zemmour pour RTL, depuis qu'il s'est déclaré candidat, plusieurs déplacements qu'on a fait avec lui. Et Julien, vraiment, hier soir, c'est la première fois qu'il s'est montré aussi abattu. Il ne s'en cachait plus, il avait la mine grave, on a senti qu'il était triste. On a même vu quelques gestes d'affection, de consolation de la part de Sarah Knafo, sa principale conseillère, sa compagne. Ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas, parce qu'ils sont habituellement très discrets. Oui, on a vu Éric Zemmour très abattu. Et puis on est venu nous informer que toutes ces interviews allaient être annulées, qu'il allait prendre quelques jours pour se reposer ici dans le sud au calme, comme si c'était la défaite de trop, en quelque sorte l'échec de trop, d'autant qu'Éric Zemmour a vraiment fait campagne, il s'est démultiplié sur le terrain, sur les marchés, il s'est investi, il y croyait et ça n'a pas marché.
Il peut rebondir Éric Zemmour ou son aventure politique s'achève ?
C'est difficile à dire. C'est sans doute prématuré de l'enterrer ce soir parce que, comme il le dit parfois, en on, en off, et que son entourage le répète, il y a eu par le passé des situations politiques où Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon se sont fait battre à des élections législatives après un échec à la présidentielle et ça ne les a pas empêchés de revenir. Après, il faut être clair, pour le moment, l'aventure politique d'Éric Zemmour, qu'est-ce que c'est? C'est un échec à la présidentielle, c'est une claque monumentale aux législatives. Lui-même n'est pas au second tour, mais sa formation politique tout entière. Aucun candidat Conquête n'est au second tour. Alors, seul petit lot de consolation, c'est le montant que vont pouvoir tout de même récolter son parti. Selon nos informations, cela représente près d'1,4 million d'euros par an qui iront dans les caisses de Reconquête pour faire vivre ce parti. Ça ne sera pas suffisant pour exister, d'autant qu'il n'y a pas de nouvelle élection avant 2 ans, mais c'est déjà un bon début avant de pouvoir imaginer la suite.
Les dessous de l'élimination d'Éric Zemmour et de son avenir incertain avec Thomas Després pour RTL. Merci Thomas.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
À 18h35 minutes.
Laissez-vous tenter dernière.
Et tout autre chose maintenant. On a bien besoin de laissez-vous tenter dernière. La respiration chaque jour dans RTL Soir. C'est un spécial jeunesse en quelque sorte aujourd'hui. Un nouveau héros baptisé Gaspard débarque au rayon littérature. Et son papa, c'est le chanteur préféré des enfants, Aldebert. Bonsoir Laurent Marsic.
Bonsoir Julien.
Vous avez lu pour nous le premier tome de cette série d'histoires fantastiques inventées, racontées par Aldebert.
Lu et écouté, car c'est aussi un livre qui s'écoute grâce à un petit QR code à l'arrière du bouquin. Voici l'histoire de Gaspard, un petit garçon de 9 ans débordant d'énergie. C'est l'inventeur de la famille. Autour de lui, il y a Eric, le papa, fan de ski alpin, qui s'habille trop zarbe. Gladys, la maman d'école.
C'est vrai que c'est assez zarbe, je regarde les illustrations.
La maman de maîtresse d'école et aventurière du quotidien. Raymond, le chien de la famille, le vrai copain à quatre pattes. N'oublions pas Justine, la sœur de 15 ans, fan de métal, la zic. Et Titouan, le plus jeune de la famille, le geek qui ne décroche pas de ses jeux vidéo. Voici donc la famille Boniface. En apparence, chouette famille, sauf que rien ne tourne rond pour Gaspard. Surtout la nuit, il fait des cauchemars. Et sa mère, Gladys, va alors lui offrir un étrange boîtier permettant de mélanger les rêves.
Étrange bidule,
se dit Gaspard.
C'est un objet simple en apparence, mais il renferme une magie ancestrale.
Waouh ! Et tu me le donnes ?
Bien sûr, mon Gaspard, il est pour toi. C'est un mélangeur de rêves.
Et l'aventure peut alors débuter.
Des livres illustrés, mais sans lien avec ce que chante Aldebert.
Exactement, c'est vraiment quelque chose qu'il a construit et imaginé à côté de sa carrière de chanteur. Il n'y a d'ailleurs pas de chansons bonus dans la partie audio. Le seul point commun avec ses chansons, c'est qu'il aborde là des problèmes du quotidien des enfants. Et du coup, en parler, bah, ça aide à surmonter ces fameux problèmes. Ses livres s'adressent plutôt aux 6-7 ans. Le résultat est très sympa à lire et à écouter. Le mélangeur de rêves aux éditions Glénat Jeunesse. Rien ne vous empêche de prolonger le plaisir en allant écouter, pourquoi pas, ce qu'on entend derrière, une des chansons de Guillaume Aldebert qui sera en concert en juillet avant de repartir en octobre sur les routes de France.
C'est noté, merci beaucoup pour ce joli conseil jeunesse pour les 6-7 ans ce soir, cher Laurent Marsic. Dans un instant, on va défaire le monde dans RTL Soir. Cyprien, Sini, Céline Landreau, Laurent Tessier s'installent. Bonsoir les amis.
Bonsoir à tous.
Et on va défaire la chaleur parce que la canicule menace et on va vous expliquer comment nos agriculteurs s'adaptent déjà au réchauffement climatique. A tout de suite sur RTL.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.